le correspondant suivi de Ma vie, de nouvelles de Maurice Leblanc. Chacun sa vocation. Celle d'Alcide Chapeau consistait simplement à quitter la province pour demeurer à Paris. Dès son enfance, il se sentit entraîné irrésistiblement vers la capitale. Non qu'il y pensât briller par quelque mérite ou quelque originalité, mais tout homme marche vers un but. Toute vie tourne autour d'un pôle. Lui, Paris l'attirait. Il en parlait toujours comme s'il y eût été, ce qui lui donnait un singulier relief parmi ses voisins. Ses descriptions imaginaires étaient précises. Sur le mur de son bureau pendaient des cartes et des plans de la grande ville. Un point au crayon rouge marquait l'endroit où il habiterait, une fois sa fortune faite. D'ailleurs, il connaissait toutes les rues principales, les boulevards, leur longueur, leur largeur. Le provincial est inférieur au parisien, la chose est certaine, mais le provincial qui veut se faire parisien, et qui le sera, est supérieur à ses congénères. D'après cet axiome, Alcide Chapeau méprisa son entourage de boutiquiers et de rentiers, dédaigna d'épouser une fille du pays et, quand le succès de ses entreprises lui permit de réaliser son rêve, rompit avec toutes ses relations. Donc, à 50 ans, Alcide débarquait dans la capitale et louait un logement rue Montmartre, en plein centre, en pleine activité, au cœur de Paris. Il choisit la maison la plus populeuse. Les locataires grouillaient. Les premiers mois furent délicieux. Il prenait possession de son royaume, son pied frappait dur sur le pavé, sa canne martelait le trottoir. Il se faisait un point d'honneur de ne jamais demander son chemin à personne, disant « À quoi bon ? J'irai les yeux fermés !» Aussi, se perdit-il souvent. Une bizarrerie l'étonnait. Il n'entrait en rapport avec personne. Sa solitude lui pesa, il voulut la rompre, mais une invincible timidité lui liait la langue et lui comprimait le cerveau. Depuis tant d'années, il proclamait la suprématie de tous ces gens, qu'auprès d'eux il se sentit infime, tout petit garçon, ridicule, emprunté, provincial en un mot. Le fait est que ses tentatives de liaison restèrent infructueuses. On semblait lui rire au nez. Il se tint à l'écart, vexé. Pour secouer son ennui, il inventa des distractions. Son pas était de 70 cm. Il se mit à arpenter des rues, convertissant en mètre le nombre de ses pas et vérifiant son erreur dans le bottin. Il devint d'une habileté surprenante. On se lasse de tout. Alcide Chapeau commençait alors à trouver la vie très monotone et Paris dénué d'intérêt. Jusque chez lui, il n'éprouvait qu'échec et outrage. Ainsi, le concierge, cet être évidemment inférieur, le concierge affectait de le connaître à peine. Blessure cuisante, car ce concierge causait avec tous les locataires, potinait avec les bonnes et la loge retentissait de rire. Quel précieux allié eût été un pareil personnage ? Et quel agent de fusion avec les autres habitants de l'immeuble ? Alcide pensa. Il faut le conquérir. Et chaque jour, il en trouvait la porte et demandait « Il n'y a pas de lettre pour moi ?» L'individu ripostait d'un ton bourru « Non, rien !» Cela dura 2 semaines, et puis un matin, le concierge, impatienté, s'écria « Eh, que diable ! Vous savez bien que vous ne recevez jamais de lettres, vous !» C'est vrai. Il ne recevait jamais de lettres, lui. Tous ses voisins en recevaient, lui, non. Quoi d'étonnant à ce qu'il fût dédaigné par le concierge et privé de la considération à laquelle il avait droit ? Ne pas recevoir de lettres, c'est ne connaître personne, ne posséder aucune protection, être dénué de toute influence, de tout crédit, de toute autorité. Il s'aperçut soudain de son isolement dans le monde. Il vivait à part, comme un lépreux. Nul ne s'intéressait à lui. Il ne pouvait faire ni bien ni mal. Qu'il crevât, pas une larme ne coulerait. De là, sans doute, provenait l'espèce de froideur avec laquelle on l'accueillait. Cette intuition le rendit songeur. Il cessa ses visites au concierge. Son visage marquait l'effort des laborieux enfantements qui transforment une vague idée en une résolution fixe et irrévocable. Or, un matin, il arriva ceci. Alcide passait devant la loge d'un air dégagé en sifflotant quand le concierge l'appela. « Monsieur Chapeau ! Monsieur Chapeau ! Il y a des lettres pour vous !»« Ah, bien !» prononça Monsieur Chapeau, tout simplement. Il y en avait trois. L'une, munie d'une enveloppe distinguée, une autre, portant l'en-tête des magasins du Louvre, la troisième, carte postale où Alcide put lire aussitôt une demande de secours. Le lendemain, il en reçut quatre. L'une d'elles exhibait une couronne de comte, cerclée de devises. Le surlendemain, deux courriers apportèrent cinq lettres, et cela s'accrut bientôt d'une façon définitive. À chaque courrier, il y eut quelque chose pour Monsieur Alcide Chapeau. Sa situation subit un changement immédiat. Le concierge devint obséquieux et bavard. Les autres locataires le saluaient très bas dans les escaliers. Lui-même prit de l'aplomb. Au café, on le considérait. Comme il se félicita de son stratagème, les délicieuses nuits qu'il employait à tracer sa propre adresse sur toutes ses enveloppes. Il fallait une rude attention pour que l'écriture ne fût jamais semblable. Et quelle imagination pour varier l'état social apparent de l'expéditeur. Nul détail n'était négligé, ni le parfum, ni la couleur de l'encre, ni la position du timbre, ni le cachet. Les enveloppes, surtout, le préoccupaient. Il passait ses après-midi à en acheter de formats différents et de qualité spéciale. Il ne s'en tint pas là. Il eut la minutie de composer scrupuleusement le texte des missives renfermées. Sa correspondance fut dès lors d'une complexité prodigieuse. Il s'écrivait des suppliques, des mots de remerciement, des faire-part, des condoléances, des billets d'amour ou des billets de vieux camarades ou de riches cousins ou de fonctionnaires importants. Et il ne manquait pas d'ouvrir et de lire toutes ses lettres. Son importance grandissait avec leur augmentation progressive. Aussi ne pensait-il même plus au concierge ni à ses voisins. Il se suffisait. Sa vie se trouvait si remplie. Une vie d'araignée au milieu de sa toile, à l'affût parmi les centaines de fils qui rayonnent autour d'elle. Il ne marchait plus, il courait. Il courait à travers Paris, roulait sur tous les omnibus et fréquentait les bureaux de poste des quartiers les plus opposés. À l'approche de ces bureaux, sa contenance devenait tout autre, en rapport exact avec la qualité de la personne qui, soi-disant, lui écrivait. Et de même, à sa table de travail, son âme se métamorphosait à l'infini. Tantôt, il possédait une âme de ministre, tantôt de commerçants ou d'épiciers ou d'acteurs ou de militaires ou de femmes du monde ou de courtisanes. Il en prenait les poses, la voix, les manières. Il était vraiment le personnage évoqué. Et son plaisir se doublait d'une joie de créateur à voir défiler devant lui tous ces types imaginaires engendrés par sa fantaisie. Jamais il n'ouvrait une enveloppe sans l'examiner et la palper, comme pour en chercher la provenance. Puis, il allait droit à la signature et s'écriait « Tiens, c'est de machin !» ou bien « Que diable me veut cet animal !» Enfin, il lisait, et d'un bout à l'autre, il accompagnait sa lecture de remarques et d'exclamations.
« Est-il bête ?
Ah non, je refuse.
Pour qui me prenez-vous, monsieur ?
Voilà un particulier qui ne manque pas d'intelligence. » Cette expression revenait souvent, si bien que son orgueil grossit, alimenté par tant de louanges indirectes. La tournure des phrases l'émerveillait, et l'affluence des idées, et la pompe des formules de politesse. Se haussant d'un degré, il entretint avec lui-même un commerce spirituel des plus transcendants. Il se consultait sur les questions palpitantes qui divisent l'humanité. Il se demandait son avis sur la peine de mort, sur le libre arbitre, sur le désarmement, sur le doute, sur les dogmes. Il s'exposait des cas de conscience. « Monsieur, ma femme me trompe. Dois-je la tromper, ou la tuer, ou la répudier ?»« Monsieur, j'ai trouvé un portefeuille. Que faire ?»« Monsieur, la vie m'est à charge. » Admettez-vous le suicide ? Il se regardait comme universel, recette de cuisine, placement de fortune, remède sanitaire, plan de voyage, combinaison pour amoureux, rien ne l'embarrassait. Il était d'autant moins gêné que son manège consistait en interrogations et jamais en réponses. Un jour, il s'écrivit une lettre anonyme et, en la recevant, il pesta indigné. Comment y a-t-il des gens assez lâches pour employer de telles manœuvres et pour ternir la réputation d'autrui tout en gardant le masque ? Un autre jour, il se donna rendez-vous au pied de l'obélisque à 4 heures. Et, durant 2 heures, il s'attendit, en tirant sa montre avec impatience et en maugréant après le malotru qui le laissait se morfondre. Enfin, il fut heureux. Mais l'âge vint. Il craignit que sa santé ne résistât pas à un labeur si formidable. Prudemment, il planta là tous ses correspondants et disparut. Aujourd'hui, il vieillit dans son pays natal. Ses paperasses sont étiquetées et cataloguées. Le soir, il réunit les amis d'autrefois et il lit quelques-unes de ses lettres, principalement celles qu'il s'est adressées de la part de personnages importants. Ma vie. La voici, ma vie, de 20 ans à 50, les 30 années qui, seules, valent la peine qu'on vive. Avant, on est trop jeune, après, trop vieux. Ne faisons donc point fausse route en cette période. Toute erreur est irréparable. Au sortir du collège, je commençais mes études de droit à Paris. L'expérience m'a prouvé, depuis, que j'étais à ce moment, que j'étais il y a quelques jours encore, romanesque, maladivement romanesque. La lecture de certains livres, si dangereux pour les imaginations neuves et le hasard de mes amitiés d'adolescents, m'avait muni d'une sentimentalité ridicule. Je rêvais d'aventure, je brûlais de me sacrifier, de m'anéantir pour une femme. L'âge et quelques expériences m'eussent guéri, sans doute, mais il m'arriva la pire des choses. Je tombais amoureux d'une jeune fille. Durant 18 mois, les parents d'Adrienne me traitèrent comme un enfant dont on ne se méfie pas. L'été, au bord de la mer, je m'asseyais à ses pieds. où dans les promenades nous nous hâtions pour causer librement. L'hiver, à Paris, j'allais chez eux sans crainte d'être importun. Tous mes souvenirs me représentent cette époque sous la forme de tableaux poétiques, d'une poésie conventionnelle que nous recherchions avec enthousiasme. Les couchers de soleil, les étoiles, les mares miroitantes, les sentiers ombreux furent choisis comme témoins de nos serments et de nos protestations. La plus nette de ces réminiscences évoque une embrasure de fenêtre, le soir d'un bal. Adrienne est assise, moi, debout. Nos yeux se mêlent, nos cœurs battent. Solennellement, nous nous fiançons. Elle ne sera qu'à moi. Je ne serai qu'à elle. Elle me tend son front, j'y pose un baiser et une larme. Le lendemain, Adrienne annonçait à ses parents l'heureuse nouvelle. Le surlendemain, je me présentais, vainement. La porte m'était fermée. Je fus malade, en danger de mort, paraît-il. À peine convalescent, je reçus une lettre d'Adrienne me conviant à un rendez-vous aux environs de la propriété où son père chassait en automne. Autre scène. Les feuilles tourbillonnent au souffle du vent, les arbres craquent, on grelotte. Adrienne est en blanc, toute pâle, elle me prend la main. Je vais vous causer un grand chagrin, mon pauvre ami. Je vous demande de me rendre ma parole. Je la regardais haletant. Oui, dit-elle, mon père est mal dans ses affaires, il m'a supplié d'épouser Monsieur Lamery, qui seul peut le sauver. Je n'eus aucune jalousie. Adrienne n'aimait certes pas cet homme disgracieux et de caractère désagréable. Je balbutiais. Et qu'avez-vous résolu ? J'attends vos ordres. L'heure de l'immolation sonnait. Je m'immolais. Il faut obéir à votre père, c'est le devoir. Je suis fière de toi, s'écria-t-elle, fière de t'aimer. Elle saisit ma tête entre ses mains et déclama. Ami, jure-moi de ne jamais chercher à me revoir. Mon honneur l'exige. Moi, je m'engage, si jamais j'ai besoin d'un appui, d'un consolateur, à t'appeler auprès de moi. Je m'agenouillais. Adrienne, pour la vie, je t'appartiens. Nous pleurâmes. Je la quittai. Quel déchirement. J'étais en plein drame. Ma peine, au fond, si horrible qu'elle fût, me semblait d'une belle essence et j'en tirais orgueil. J'ouvris même un de mes romans favoris où le héros se trouvait en pareil cas. Lui se tuait. Le pouvais-je, moi ? Moi sur qui comptait Adrienne ? Je partis. J'abandonnais tout. Ma mère, mon pays, mes études. Je m'arrangeais pour qu'un ami me fît parvenir ma correspondance et je m'en allais très loin. J'errais comme un vagabond, sans foyer, rien ne me retenait. Nulle ville ne me plaisait, je les ai toutes habitées, je n'en connais aucune. J'ai dormi dans le désert, j'ai dormi sur la montagne, j'ai promené par toute la terre ma solitude et mon secret, triste pèlerin. Esclave de ma passion. Je jouais à merveille le rôle de grand amoureux auquel ma jeunesse avait aspiré. J'affecte l'ironie aujourd'hui. J'ai tort. Les larmes sont choses graves et il n'est pas un lieu au monde où je n'ai pleuré. En vérité, j'ai profondément aimé, infiniment souffert. Le temps n'allégeait pas ma douleur. Elle prenait racine en moi comme en un terrain préparé pour elle. Peut-être aurais-je pu me consoler. J'ai vu des femmes vers qui me portait une sympathie instinctive. Je les ai fuies. Sitôt mon désir assouvi, mon serment m'ordonnait d'accourir au premier appel et je me refusais à toute chaîne assez puissante pour entraver ma liberté. Et j'ai attendu. J'ai attendu des années la lettre bénie où Adrienne me dirait sa détresse et sa foi en mon attachement. Ma vie n'a été qu'une longue souffrance et qu'un long espoir, et toujours la même souffrance et toujours le même espoir. Une seule fois, je suis revenue. Ma mère se mourait. J'arrivais trop tard. Les affaires de succession nécessitant mes soins, je restais. C'est ainsi qu'un matin, j'aperçus Monsieur Lamery au bras d'une femme. Une immense joie m'envahit et, sans scrupule, le soir même, je commettais la lâcheté d'envoyer à Adrienne une lettre anonyme. 10 ans d'absence sont mon excuse. Prévenue de son abandon, pensais-je, elle m'écrira. Je m'accordai un mois de répit. Au bout d'un mois, aucun avis ne me parvenant, je repris le chemin de l'exil. Il y a 20 ans de cela, ai-je autant souffert ? Non, mais nul plaisir ne me divertissait plus. Mon âme gardait le pli du chagrin. Et j'ai vécu de la sorte. J'ai vieilli, fidèle à ma parole d'enfant, preux et naïf chevalier d'une dame lointaine. Mes cheveux ont grisonné, tandis que mon cœur demeurait intact au service de l'aimé. Et mon sang s'est appauvri, et mes membres se sont alourdis, et les rides mélancoliques ont rayé mon visage. N'importe. 30 années durant, sans me plaindre, sans la voir, sans entendre parler d'elle, j'ai attendu la fiancée de mes 20 ans. Or, la semaine passée, arrivant d'Amérique, je pris au Havre le train de Paris. 3 messieurs montèrent dans mon wagon. L'un d'eux était Monsieur Lamery. Sa présence me fut odieuse. Je ne sais toutefois ce qui me retint, quelle volupté perverse j'éprouvais à contempler cet individu que ses yeux, à elle, avaient si souvent contemplé. Ils causèrent. Lui plaisantait lourdement d'une voix commune. Jusqu'à Barentin, ils ne dirent rien de particulier. C'est seulement au sortir de cette station que M. Lamery, à propos de lettres anonymes, lança cette phrase étrange. « J'en ai reçu une bien drôle jadis, ou plutôt ma femme. On la prévenait que j'avais été rencontrée la veille, à telle heure, à tel endroit, en compagnie d'une cocotte. Et précisément, à cette heure, à cet endroit, c'était avec Madame Lamery elle-même que je me promenais. » J'écoutais, couvert de sueur, cette femme, Adrienne, et je ne l'avais pas reconnue. Après si peu d'années, je n'avais pas distingué sous les traits nouveaux la physionomie ancienne. Mon Dieu, mon Dieu ! Mais alors, si je la revoyais, je la renierais peut-être. Cela se pouvait-il ? Je sentais là-dessous quelque infernal mystère. Et malgré moi, malgré ma haine pour cet homme, il me fallut lui adresser la parole. Et je lui dis « J'ai eu l'honneur, monsieur, de vous être présenté il y a longtemps, fort longtemps. Mon nom ne vous rappellera rien, mais il évoquera pour Madame Lamery le souvenir d'un ami sincère, du temps où elle s'appelait Mademoiselle Adrienne. » Il m'interrompit. « Ah, c'est de ma première femme qu'il est question. » Je tressaillis, ne comprenant pas. Il reprit. « Oui, je me suis mariée 2 fois. Ma première femme, Adrienne, est morte l'année de notre mariage. »«
Morte !»
hurlai-je en un cri rauque. J'étouffais. On dut me secourir. Je prétextais la chaleur. Monsieur Lamery baissa la glace. Et comme on approchait de Rouen, il continua d'un ton ému. « Oui, elle est morte. Tenez, j'avais loué un petit chalet là-haut à Bon Secours pour un été. En 1 semaine, une fluxion de poitrine l'a enlevée. Pauvre enfant, elle dort dans ce cimetière que vous voyez au flanc du coteau. » À la station, je sautai du train. J'étais fou. Je pris une voiture et j'y allais vers ce cimetière. J'y allais sans savoir pourquoi. Les tombes s'alignaient, grise et gaie au soleil. Je cherchais la sienne. Elle s'abritait à l'ombre d'un arbre, toute simple, avec ces mots « morte à 19 ans ». Alors, une rage épouvantable m'a bouleversée, une rage de tout mon être contre ce cadavre que j'ai aimé pendant 30 ans, contre ce squelette auquel j'ai sacrifié ma jeunesse et ma force et mon bonheur, contre cette pourriture vers qui, depuis mon enfance, tendent mes désirs, mes rêves, mes espoirs, mes illusions. Et sur la tombe, j'ai craché.